problème.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'émission Angle Mort qui commence. C'est dimanche, il est 9h, passé de quelques minutes. Et donc l'émission Angle Mort, une émission qui, comme tous les dimanches, de 21h à 22h, propose expérimentation sociale, critique sociale. Et puis ce soir, ce sera surtout, essentiellement, même exclusivement, de sociologie critique dont il s'agira. Et on va vous diffuser un entretien qui a été réalisé par Eric et que tu vas présenter.
Oui, donc bonsoir. Ce soir, donc, on va diffuser un entretien que j'ai réalisé avec Odile Henry, qui est sociologue, professeur à l'université de Paris 8, et qui a travaillé notamment sur le métier de consultant, les cabinets de conseil, le management. Elle a sorti en 2012 un livre magistral intitulé « Les guérisseurs de l'économie, ingénieurs conseil en quête de pouvoir ». Qui était publié au CNRS Édition et qui réalise une socio-histoire du métier de consultant, donc métier qui au départ s'appelait en France ingénieur conseil ou organisateur conseil. Et c'est de ce livre notamment qu'il va être question, mais aussi plus largement des travaux de Odile Henry, puisque sa thèse portait aussi sur le conseil en entreprise et le métier de consultant, mais dans la période contemporaine, et il en sera parfois question dans l'entretien. Voilà, donc on lance tout de suite l'entretien parce qu'il est un petit peu long et on ne veut pas déborder trop sur l'émission d'après nous, mais on reprendra ensuite la parole pour quelques précisions. Voilà.
Eric, tu voulais quand même préciser que peut-être que l'enregistrement est un peu faible et qu'il faudrait peut-être pousser les...
Voilà, ça sera peut-être
le volume sur vos radios.
Nous, on va essayer de le mettre à fond, mais voilà, si vous entendez pas bien, bah, il faut...
Voilà, c'est parti.
Radio Canu.
Donc pour commencer, pour ceux qui ne situent pas très bien qui sont les consultants, ce qu'est le management, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi ils retournent?
D'accord. Alors, les consultants, on se forme à un groupe professionnel, si on peut les appeler comme ça, qui a connu une assez forte expansion au cours des années 50 en France. Mm-hmm. Et notamment sur les questions d'audit, de contrôle des comptes et de comptabilité, c'est comme ça qu'ils sont intervenus. Enfin, en tout cas, c'est les cabinets américains qui sont arrivés en France dans les années 50. Et ensuite, dans les années 60, on a vu arriver des cabinets de stratégie qui eux pilotent les directions générales des firmes sur les questions de rachat, fusion, concentration, localisation, etc.
Ouais.
Et même de choix industriels. La profession a pris son essor à peu près à ce moment-là, mais il y avait une tradition en France de cabinet de conseil qui datait donc du 19e siècle et qui s'est... la spécificité de la France par rapport à d'autres pays européens, c'est que les cabinets nationaux sont restés hyper présents sur le marché. Ils n'ont pas été évincés par les cabinets américains.
Ouais.
Alors que ce n'était pas forcément le cas en Allemagne, par exemple, il y a vraiment une hégémonie des cabinets anglo-saxons ou américains. Ce sont des gens qui font payer très très cher à leurs clients, qui peuvent être des directions générales, mais aussi des directions de services fonctionnels, des conseils et des études. Mais qui, en règle générale, ne sont pas payés en fonction de leurs résultats. C'est-à-dire qu'ils ils s'engagent sur des moyens, le fait que leur conseil, l'intervention d'un cabinet de conseil soit suivi ou non de résultats, d'amélioration, n'entre pas dans la rétribution. Donc, ils vendent des conseils, ils vendent des prestations intellectuelles ça peut être des directeurs informatiques, directeurs financiers, direction générale, direction du personnel, voilà.
Ce que tu as dit, comptabilité notamment, et après plus stratégie, mais il y a aussi sur la question, enfin ils interviennent sur l'organisation du travail, ou c'est un autre, ou c'est un sous-corps de métier
C'est-à-dire que, moi j'ai fait ma thèse... que j'ai soutenu en 1993 sur le métier de consultant tel qu'il existait en France dans les années 90-2000. Donc c'était une thèse qui portait vraiment sur le contemporain. Et on repérait assez facilement plusieurs grandes spécialités qui correspondaient soit au sein des cabinets généralistes, des directions différentes, des centres de profit différents, soit qui correspondaient à des sociétés spécialisées. Donc, en gros, il y en avait quatre grandes. Il y avait l'informatique, et c'était souvent des SS2I qui avaient créé des structures de conseil, soit des filiales, soit des services.
Ouais.
Il y avait la stratégie, et là, on avait quasiment que des cabinets américains. Il y avait tout ce qui... l'expertise comptable, la certification des comptes, le conseil, l'audit, l'audit des comptes. Et il y avait un ensemble qui était un peu moins bien défini, qui était l'organisation, management et ressources humaines.
D'accord.
Donc, en gros... Et ça, c'est des spécialités qui s'institutionnalisent, en tout cas qui apparaissent de manière assez claire, même dans les rapports d'activité des cabinets de conseil, à partir des années 80.
D'accord.
Mais si on remonte un peu plus dans le temps, on s'aperçoit que, évidemment, l'informatique, c'est les années 50-60. Avant, ça n'existait pas. Si on remonte avant la Seconde Guerre mondiale, on a de l'organisation du travail, principalement, et du conseil en ingénierie, du conseil très technique,
d'accord,
qui existe toujours, mais qui, en fait, ça forme une sorte de segment un peu à part, doté de ses propres associations professionnelles, et c'est assez séparé du monde du consulting.
D'accord. Ouais.
Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur cet objet? Quel est un peu le parcours qui t'a amené à t'intéresser à
cet objet? C'est toujours c'est une question difficile, parce que je crois qu'on n'est jamais vraiment pleinement conscient des raisons qui nous poussent à travailler sur un objet ou sur un autre. Moi, j'avais fait un mémoire de M2, enfin de DEA à l'époque, sur le conseil en communication. Et je m'étais retrouvée à faire un terrain dans une petite ville de province où il y avait un gros cabinet de conseil qui était une sorte de gourou pour les hommes d'affaires locaux, et qui pilotait ce cabinet avec sa femme, et ils venaient tous les deux d'une secte installée en Suisse, et après être passés par un retour à la nature, l'élevage de moutons. Donc on était dans une idéologie post-années 70, mais ce qui était vraiment très surprenant, c'était le manque de robustesse scientifique, en fait, de leurs outils. qui étaient vraiment des techniques apportées d'éveil à soi utilisées dans la secte. Et j'avais pu assister à des espèces de séances entre la méditation et je sais pas quoi, l'hypnose collective, où les patrons étaient là, et je m'étais dit que ces personnes avaient une influence, un pouvoir assez important sur le patronat local. Et en même temps, leur savoir n'était pas du tout inscrit, n'avait pas droit d'entrer à l'université, ils en souffraient beaucoup. Et je trouvais que cet objet, qui était justement à charnière entre le monde universitaire et scientifique d'un côté, et le monde patronal, en disait beaucoup aussi sur ce qu'étaient les savoirs qui séduisaient le patronat.
Ne vous contentez pas de flotter quand vous pouvez naviguer.
C'est bon ça.
Donnez un cap à votre vie. Donnez un cap. C'est bon ça. D'accord. Soyez les capitaines de votre propre navire.
C'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire aussi ces logiques d'import-export et la manière dont l'université résistait à ça à l'époque. Et ce qu'on pouvait dire aussi de ces savoirs pratiques, ces savoirs qui sont efficaces sans être scientifiques.
Et du coup, pour en venir maintenant au livre que tu as publié il y a maintenant un an à peu près,
oui, je pense. Oui, ça fait un an. Ouais.
Les guérisseurs de l'économie, comment ce livre s'inscrit par rapport à la thèse et notamment, puisqu'il suit là, il aborde l'histoire, cette fois, du management et des consultants. Pourquoi l'avoir abordé de manière historique? Pourquoi avoir pris cet angle historique?
Bah, pour plusieurs raisons. D'abord, moi, quand j'étais doctorante, j'ai pas eu d'allocation de recherche, donc il a fallu que je finance ma thèse en répondant à des appels d'offres pour différents ministères et aussi par exemple pour l'ANACT, l'Association Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail, pour le ministère de la Recherche, pour l'APEC. Donc je vendais des petits bouts de thèse et je faisais pas exactement ce que je voulais. Et moi, en fait, j'avais, dès le départ, je pensais que c'était intéressant de s'interroger sur l'histoire de ce groupe professionnel, parce que la problématique qui m'intéressait, c'était quand même celle de la croyance. C'est-à-dire, finalement, c'est une profession improbable. Le jeune HEC, à peine 20 ans, qui vient donner des conseils à un patron qui en a 60, qui a beaucoup plus d'expérience. Enfin, bon, il y avait quelque chose d'assez improbable dans le fait que ce marché puisse fonctionner. Et alors là, bon, on peut renvoyer à tout un tas de travaux qui ont été faits là-dessus sur la croyance économique, mais finalement, il y a très peu de garanties qui sont offertes, il y a peu de procès, un client qui n'est pas satisfait, il a très peu de moyens, sauf à plus faire appel à un cabinet de conseil. Enfin, c'est un secteur où la croyance, elle est très peu institutionnalisée. Et je me posais quand même cette question à la fin de ma thèse, mais comment se fait-il que cette croyance perdure. Et du coup, il me semblait que travailler sur l'histoire, c'était travailler sur la construction de la croyance et sa solidité. Et c'était me pencher vers une analyse sociologique historique, c'était essayer de traiter cette question de la croyance.
D'accord.
Le travail historique que j'ai mené m'a pris à peu près 15 ans de mon temps. et c'était au départ juste un chapitre introductif à la publication de ma thèse, et en réalité c'est devenu un livre en soi. Parce que je me suis rendu compte en remontant l'histoire qu'on pouvait pas ne pas aller plus en avant dans l'histoire, jusqu'à quasiment le début du 19e siècle où le terme d'ingénieur conseil, parce qu'à l'époque on les appelait pas consultants, ce terme est arrivé en France après la Seconde Guerre mondiale, je pense sous l'influence de l'arrivée des cabinets américains, ouais. Puisque c'est la traduction en français du terme anglais. Mais avant, on parlait d'ingénieurs conseils. Et ces ingénieurs conseils, ce terme apparaît quasiment au tout début du 19e siècle lorsque se pose la question des débouchés des élèves de l'école polytechnique.
Donc des ingénieurs.
Des ingénieurs. Mmh. Et la question du rôle de l'État dans le développement de l'industrie en France. Et donc le poste d'ingénieur conseil à l'époque désignait des missions ponctuelles qui étaient réalisées par ces polytechniciens, souvent issus des grands corps de l'État, du corps des ponts, du corps des mines, pour aller porter les lumières de la science à l'industrie. Mmh. Dans un contexte aussi où l'industrie était quand même pas tellement développée. Et donc le métier d'ingénieur était d'abord et avant tout un métier c'était des postes fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Mmh. Il n'y avait pas d'ingénieurs dans l'industrie, les industries étaient trop peu concentrées. Et donc la quasi-totalité des ingénieurs venaient donc de l'école polytechnique, de l'école des mines, des écoles d'ingénieurs d'État, c'était des serviteurs de l'État. Et ils ont joué un rôle dans le développement de l'industrie en tant qu'ingénieurs conseil, qui leur apportait d'ailleurs de l'argent. Enfin, ils faisaient ça en plus, ils avaient ces missions de conseil, étaient exercées en parallèle de leur activité de haut fonctionnaire. Mmh. Voilà. Donc, après, évidemment... un des points centraux du livre, c'est la question des luttes, des rivalités, des luttes entre ces ingénieurs liés à l'État, qui donc avaient le titre d'ingénieur, qui étaient souvent membres de l'Académie des sciences, qui étaient professeurs dans les écoles d'ingénieurs, donc qui avaient vraiment, qui présentaient un ensemble de garanties tout à fait consistant. Qui étaient auteurs, qui étaient aussi des savants, qui donc pouvaient être académiciens, etc. Et puis ce qui apparaît à partir de 1829-1830, c'est-à-dire la création d'une école privée d'ingénieurs pour l'industrie. Et auquel le titre d'ingénieur n'est pas décerné immédiatement. Il faut attendre les années 1860-70 pour qu'on leur reconnaisse le titre d'ingénieur. Donc il y avait évidemment une rivalité entre ces deux types d'ingénieurs, puisque les ingénieurs de l'école centrale qui étaient voués au développement industriel, qui se vouaient au développement industriel, n'avaient pas de poste, puisqu'il y avait très peu de postes, et donc ils faisaient aussi du conseil.
L'école centrale, c'est la nouvelle école.
L'école centrale des arts et manufactures, donc créée en 1829. Les premières promos, ils étaient tous ingénieurs conseil. C'est-à-dire que c'était une autre conception de cette activité de conseil qui était ingénieur intérimaire. En fait. Et donc, ils sont entrés directement en concurrence avec les polytechniciens qui, eux, exerçaient ces missions de conseil de manière complémentaire à leur charge d'inspecteur des ponts, des mines. Voilà. Donc, alors ce clivage, il est intéressant parce qu'il se reproduit au cours de l'histoire. C'est-à-dire que on voit bien comment ces deux fractions de la profession ont des intérêts qui sont divergents, puisque les uns vont assez vite, les ingénieurs liés au privé, à l'industrie privée, aux capitaux privés vont contester la prétention des hauts fonctionnaires à incarner l'intérêt général en disant finalement ils n'incarnent pas tant que ça l'intérêt général, c'est d'abord et avant tout un intérêt de corps. Les hauts fonctionnaires stigmatisant ces ingénieurs du privé en disant c'est des charlatans. Leur titre n'est pas certifié, sont des gens je suis tombée sur plein de textes comme ça, par exemple les conseils qui sont donnés aux futurs papas qui sont industriels, qui veulent marier leur fille, et à quel type d'ingénieur on peut marier sa fille. Il y a cette idée qu'il y a du charlatanisme, des gens qui sont pas très sérieux. Et donc les polytechniciens vont... Alors, sur toute la période que j'étudie, jusqu'à la libération, donc j'inclus le régime de Vichy, on voit bien comment les deux fractions sont opposées, et les ingénieurs liés aux écoles privées et à l'industrie privée veulent construire un ordre des ingénieurs conseils, qui exclurait tous ceux qui n'exercent pas cette profession à temps plein, donc les polytechniciens.
Ouais.
Et ça se joue vraiment sous Vichy. Les polytechniciens, eux, sont opposés à un ordre qui les prive d'une part importante et de leurs revenus et de leur pouvoir. Travailler sur l'histoire, c'est travailler sur toutes ces luttes la manière dont se forme cet espace de concurrence dont ces luttes créent de la croyance. Parce que si les gens ne luttent pas, c'est que si les gens luttent, c'est qu'il y a des enjeux pour lutter. Ouais, donc on prend au sérieux ce qui est l'enjeu de la lutte et on crée la croyance dans une activité. Bon, enfin voilà, l'espace de compétition fait que produit la croyance d'une certaine manière.
D'accord. Ouais.
Elle ne préexiste pas à l'espace de compétition. Elle est le produit de la compétition.
D'accord.
Et c'était à la fois ça, mais c'était aussi prendre la mesure des possibles qui existaient historiquement, le fait que cet ordre n'ait pas été créé va favoriser une logique, la logique du marché.
D'accord.
C'est-à-dire seul le marché est en mesure de réguler la profession. Et donc d'une certaine manière tous les coups sont permis dans cette profession. Et je pense qu'aujourd'hui il y a un enjeu important à ça. Par exemple, il y avait un secteur qui était relativement protégé du marché, un secteur du conseil qui était relativement protégé du marché, qui est le secteur de l'expertise des conditions de travail. Donc ça jouxte la santé au travail.
Ouais.
Et c'est un secteur au sein duquel la plupart des cabinets qui ont été créés dans les années 70, 80, dans la suite des lois Auroux, étaient des cabinets qui avaient été fondés par des syndicalistes. Et donc qui étaient devenus des experts
des conditions de travail.
Des expertises de la santé au travail, des conditions de travail. J'ai coordonné un numéro de la revue de l'IRES où on revient un petit peu sur cette histoire, mais pendant très longtemps, ces cabinets d'expertise avaient peu de débouchés, et puis petit à petit, la législation a changé, les entreprises avec la création des CHSCT, les délégués du personnel pouvaient poser des alertes lorsque les conditions de travail étaient dangereuses pour la santé des salariés. Il arrivait assez fréquemment que l'entreprise soit obligée de faire appel à un cabinet d'expertise santé au travail à la demande des délégués du personnel et qu'elle soit obligée de le payer. Si les représentants du personnel imposent à l'entreprise le recours à un cabinet de conseil, c'est l'entreprise qui doit payer.
Ouais.
Sauf que l'entreprise n'avait pas le choix entre beaucoup de cabinets de conseil, puisque c'était tous des cabinets de conseil, qui étaient liés à des grandes centrales syndicales et certifiés par le ministère du Travail, avec une procédure de certification extrêmement lourde. On avait là un espace qui échappait aux logiques du marché. Et évidemment, avec l'inflation du nombre d'expertises santé au travail, les cabinets de management qui ne faisaient pas de l'expertise santé au travail ont vu leur échapper à un marché important font pression au niveau de l'Europe, qui elle-même fait pression au niveau du ministère du Travail pour que cette procédure de certification soit supprimée. Là, il y a un enjeu important pour les salariés, parce que si les cabinets de conseil privés, managériaux, se mettent à faire de l'expertise santé au travail, on voit bien que ça ne sera pas avec les mêmes outils que ceux qui étaient mobilisés par ces cabinets d'expertise. Ouais. Et donc, cette dérégulation du marché se fait au nom de la logique du marché, qui doit être la seule à réguler le marché du conseil. Voilà.
D'accord.
le chef du gouvernement Jean-Pierre Raffarin a assisté aujourd'hui à l'Assemblée générale du MEDEF où Ernest-Antoine Seillière a été réélu président. Les deux hommes ont évoqué un nouveau partenariat entre les entreprises et le gouvernement.
Quels sont, en termes de savoir, quels sont les savoirs qui étaient portés par ces différents segments qu'est-ce que ça a fait sur notamment le travail progressivement et comment ils se sont imposés aussi du coup ces savoirs
Ouais, alors il faut bien distinguer en fait la période antérieure à la Première Guerre mondiale et la période qui s'ouvre après 1918, parce que avant la Première Guerre mondiale, on était quand même dans des savoirs d'ingénieurs. Hein, c'était la mécanique, la chimie, l'électricité, les chantiers, les gros chantiers de l'époque. Il y avait évidemment, ça commence avec la construction des lignes de chemin de fer, mais après c'est les canaux, c'est l'irrigation. Après, à la fin du siècle, ça va être l'assainissement, l'électrification des campagnes. Donc on était sur des savoirs d'ingénieurs principalement, qui pouvaient inclure l'organisation du travail, mais qui n'étaient pas vraiment spécialisés. En tout cas, il y avait ce à quoi on assiste après la Première Guerre mondiale, c'est une spécialisation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des ingénieurs qui vont spécialiser sur les sciences du travail. Ouais. L'ergonomie, la psychophysiologie, évidemment, le taylorisme, l'organisation rationnelle du travail. C'est tout un segment de la profession qui se développe à la faveur de la guerre, parce qu'en fait, ils seront... C'est l'État qui fait venir des consultants américains pour former les ingénieurs français pour rationaliser la production d'armement. Donc il y a vraiment un coup de... c'est la guerre qui favorise la formation accélérée ces consultants par des consultants américains, disciples de Taylor.
D'accord.
Donc on voit bien, moi je me suis, ce livre couvre donc toute cette période du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e, mais c'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, je me suis plutôt intéressée à ceux qui se nomment organisateurs conseils pour se distinguer des ingénieurs conseils et qui sont spécialisés dans l'organisation du travail. Donc qui sont des disciples de Taylor, mais aussi d'un des pères du management à la française, comme on dit, qui s'appelle Henri Fayol.
D'accord.
Et vraiment un des premiers à avoir pensé le management comme une science relativement autonome, indépendante des autres sciences.
Sa place dans notre société après des années d'une propagande fallacieuse en faveur du loisir.
Mais du coup, pour continuer, pour arriver au centre de ce qui était ta problématique de départ, c'est-à-dire comment ces savoirs managériaux qui pouvaient relever qu'on pourrait associer une forme de charlatanisme ont réussi à s'imposer dans l'histoire à un moment donné. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment, par exemple, tu as parlé un peu de la Première Guerre mondiale qui amène effectivement à, pour des raisons sans doute militaristes, si j'ai bien compris, à...
Le rôle de l'État est très important.
Le rôle de l'État là-dedans est très important.
Le rôle de l'État est très important. Parce que donc les premières expériences d'application du taylorisme se font pendant la Première Guerre mondiale au sein des usines d'armement. Mais les patrons sont quand même assez réticents à faire appel à ces consultants en organisation. Pour des raisons aussi de confidentialité, c'est-à-dire que ils voient pas pourquoi ils ouvriraient tout grand leur comptabilité des agents extérieurs qui ensuite iraient filer les tuyaux à leurs concurrents. Enfin, en gros, c'est un peu ça l'opposition. Et on est quand même dans un état du capitalisme que Boltanski avait caractérisé de familial. C'est-à-dire que on est encore, même s'il y a des grandes entreprises, s'il y a une concentration industrielle, on est quand même dans une gestion de père de famille, avec pas toujours une séparation bien nette entre la comptabilité de l'entreprise et la comptabilité privée. Et les affaires sont considérées comme relevant du domaine privé. C'est vraiment le libéralisme, l'idée qu'il y a une régulation par le marché et qu'il n'y a pas besoin que l'État intervienne beaucoup pour que le marché doit se réguler. C'est ce qui va être critiqué à la fin des années 30 par les néolibéraux, par les premiers cercles néolibéraux qui vont dire la concurrence sauvage, ça n'a apporté que des désastres, les crises de 29 est encore présente dans les esprits, le chômage, etc. Maintenant, l'État doit intervenir pour réguler le marché, c'est-à-dire pour faire que la concurrence puisse s'exercer de manière continue. Ouais. Donc c'est ça le néolibéralisme. Mmh. Et on voit bien comment en fait ces organisateurs conseils étaient des néolibéraux avant l'heure, puisque eux, une des raisons qui permettait qu'ils puissent intervenir dans les entreprises, c'était que les patrons renoncent à leur individualisme, au fait de traiter les affaires comme une chose privée, soustraite au regard. Je pense que ce sont des gens qui vont œuvrer très très tôt, dès 1926, pour que les dirigeants de l'économie s'accordent, par exemple, pour adopter des normes comptables qui seraient unifiées. C'est un de leurs premiers chantiers. C'est l'idée qu'il faut des règles communes et que la concurrence ne pourra régner de manière hégémonique que si chacun adopte les mêmes règles. En fait, c'est tout bête. Hein. Et donc, ils sont interventionnistes. Ils sont contre le secret des affaires, les comptes doivent être transparents, chacun doit avoir les mêmes principes de comptabilité, etc. Donc il y a cette idée. Alors les patrons sont très réticents par rapport à ça, parce qu'une des un des deuxièmes ensembles de raisons, c'est que si les comptes sont transparents, l'État peut contrôler les comptes. Donc c'est ça qui va être difficile. Alors évidemment, la crise de 29 va contribuer à ce que il y ait quand même une première remise en cause du libéralisme économique, c'est-à-dire de cette espèce de concurrence sauvage et ces idées selon lesquelles la raison doit penser la concurrence et non pas juste l'anarchisme, comme c'est écrit dans quasiment tous les textes de l'époque. Ça fermente ça après la crise de 29, et puis les événements de 36, ça va être le coup de grâce, parce que évidemment les patrons, pour la première fois de leur histoire, ils sont obligés de négocier avec les syndicats ouvriers, et les syndicats ouvriers sont extrêmement organisés, c'est-à-dire qu'ils ont des chiffres, ils peuvent donner, et les patrons vont devoir produire aussi des chiffres, et donc ils plient devant un certain nombre de revendications ouvrières, la condition pour pouvoir même dire on peut pas accepter ça, etc., c'est de produire ces chiffres, et on peut pas produire ces chiffres si les comptes ne sont pas unifiés. Donc en fait c'est la crise de 29 et les événements de 36 qui vont donner une crédibilité au cabinet d'organisation, de conseil en organisation, en disant attention, là maintenant vous êtes acculé à le faire, si vous ne le faites pas vous-même, c'est l'État qui va vous y obliger, donc nous on peut vous aider à le faire, en gros. Donc
c'est négociation et de sauver
Et c'est là aussi où ils jouent sur les deux tableaux, c'est-à-dire vaut mieux que ça soit nous plutôt que l'État, mais eux ils sont liés à l'État aussi. Donc et après, deux ans après, 1938, c'est l'acte de naissance du néolibéralisme en France, et on retrouve ces patrons qui vont être les plus favorables, en gros, au développement de la profession de conseil, qui sont réunis dans les premiers cercles néolibéraux. On voit bien comment la croyance, pour le coup, là, elle est vraiment le produit de cette histoire.
Ouais, d'accord, ok. Peut-être que ça sort un peu de ton livre, mais je pense que tu connais quand même suffisamment le sujet pour nous apporter des billes dessus. Qu'est-ce que ça a fait sur le travail, en fait, cette progressive reconnaissance des organisateurs conseils? Et j'ai vu que tu mobilisais le concept de technique de soi, donc je vous dis quel est l'intérêt de ce concept qui vient de Foucault, je crois.
Oui, tout à fait. En fait... une des questions que je me posais, c'est finalement, bon, ça part de loin, parce que ça part aussi de ma thèse, c'est-à-dire que ce que j'avais observé dans les années 90, dans les cabinets de conseil dans lesquels j'avais pu faire de l'observation participante, c'est effectivement une nouvelle forme de... presque un nouvel homo economicus qui s'élaborait là, avec des traits assez les qualités de leader étaient extrêmement valorisées, le dépassement de soi, le travail sur soi en vue d'améliorer son efficacité, de devenir entrepreneur de soi-même en quelque sorte. Ça m'avait énormément frappée. C'est-à-dire, je me disais, c'était une des conclusions de la thèse. Là, il y a un laboratoire de quelque chose. Qui s'élabore, qui est une nouvelle éthique économique d'une certaine manière, après évidemment que les travaux sur le néolibéralisme vont appeler le néo-sujet. Ça c'était une des premières questions. Je me suis interrogée sur les origines du management, parce que on peut lire le livre comme une histoire d'un groupe professionnel et de ses concurrences et de ses formes d'organisation, etc. Mais on peut lire aussi le livre comme une histoire du management, une histoire sociale, une sociologie historique du management. Et on voit bien comment, par exemple, ça oblige à rentrer un peu dans les détails, mais le taylorisme s'appuyait quand même beaucoup sur les sciences de l'ingénieur. Ouais. C'est-à-dire, en gros, Taylor, la coupe des aciers, il y avait quand même l'idée que c'était la science de l'ingénieur qui permettrait de rationaliser le processus de production. Il existait dans la traduction de Taylor par les ingénieurs français l'idée qu'il fallait inculquer à chaque individu une sorte de sens du calcul rationnel. Ça, c'était il faut rompre avec ces hommes du Moyen-Âge, les ouvriers qui demandent l'impossible, il faut les éduquer économiquement. Tout ça fait partie de l'importation du taylorisme. C'est aussi une éducation à l'économie pour que les ouvriers deviennent respectueux des lois de l'économie et qu'ils ne demandent pas l'impossible. En gros, il y avait quand même cette idée chez les tayloriens. Et puis, faut insister aussi sur le fait que ces ingénieurs tayloriens, donc qui faisaient de l'organisation du travail, parce que Marx appelle quand même, qui contribuaient à ce que les ouvriers soient dépossédés de l'intelligence de l'organisation de leur travail, confisqués au profit de ces ingénieurs, ces contremaîtres, ces techniciens. Mais ils faisaient aussi de l'organisation du travail ménager, c'est-à-dire qu'ils allaient passer du temps à l'époque, à partir du début du XXe siècle, il y a beaucoup d'écoles et même au sein des écoles primaires, des écoles primaires supérieures, des cours d'enseignement ménager pour les filles. Et là, ils viennent faire du taylorisme pour les femmes, quoi. J'ai écrit un article dans Agone qui est l'organisation ménagère et le taylorisme, parce que les femmes doivent devenir celles qui vont d'abord procurer le bien-être des ouvriers, mais grâce à une forme de rationalisation, et elles-mêmes doivent compter, alors elles se mettent des podomètres, elles doivent compter le nombre de pas entre le frigidaire et la cuisinière, et penser au trajet qu'elles font pour faire leurs courses. Donc elles doivent inculquer, les principes du calcul économique doivent devenir une seconde nature, quoi. Et on voit bien que le taylorisme, il recule les limites de l'intime, il rentre dans les cerveaux. Enfin, il y a quand même cette idée, c'est pas juste du savoir d'ingénieur surplombant sur les ateliers, etc. Le chronométrage étant et la chasse au gaspillage, comme ils disent tout le temps, les gestes inutiles et tout ça. Oui, il y a ça, mais il y a aussi l'idée d'une formation à l'économie, très très fort. Alors ça, c'est le premier versant, mais le deuxième versant, c'est le faillolisme. Et le faillolisme, alors je ne peux pas rentrer dans le détail, mais Fayol est un ingénieur, donc des mines, qui n'est pas polytechnicien, qui est donc du coup placé face au traducteur de Taylor en France, qui est un ingénieur polytechnicien. Donc se rejoue entre ces deux hommes les luttes dont on a parlé précédemment.
Oui, et c'est là où du coup on voit que c'est important d'avoir aussi mené à côté cette histoire du groupe professionnel.
Voilà, c'est ça. Et Fayolle, il est à la tête, il est placé à la tête d'une très grande entreprise sidérurgique et minière. Il est un homme du peuple qui a fait une école d'ingénieur, mais qui est ingénieur civil, donc qui est ingénieur lié à l'industrie, enfin qui n'est pas, il n'est pas haut fonctionnaire, et donc il va consigner dans des espèces de carnets intimes son expérience de dirigeant en mesure qui monte les échelons, et il va devenir le numéro un de la boîte. Et là, il va faire l'expérience du commandement, et donc il va absolument tout écrire. Et à la fin de sa carrière, il va écrire ce livre qui s'appelle Administration industrielle et générale, qui est une sorte de vademécum du chef d'entreprise, mais pas seulement, parce que pour lui, c'est un travail sur qu'est-ce que c'est que d'être un chef, mais qui doit pouvoir être aussi utile à un chef d'industrie, un capitaine d'industrie, qu'à un chef d'État ou à un grand chef militaire. Donc c'est un des premiers essais de formalisation de ce savoir sur le commandement. Et alors le commandement, il est très 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 associé à l'idée d'être visionnaire et donc de penser l'avenir de la firme, donc d'être dans la projection dans l'avenir, donc dans la stratégie. Les deux sont intimement liés dans l'œuvre de Fayolle.
Janson Métal Industrie est une entreprise qui marche bien, grâce à vos efforts à tous et à la clairvoyance de votre président. Maintenant, est-ce qu'il faut se contenter de ça ? Ben moi, je crois pas. Surtout sur un marché des métaux allégés en constante évolution, où les leaders d'aujourd'hui ne seront pas forcément ceux de demain. Dire que vous vous êtes endormi sur vos lauriers serait un peu excessif. Alors disons que vous vous êtes assoupi. Mais dans le contexte actuel, aucune entreprise ne peut se permettre de se relâcher. Bon, alors évidemment, j'en vois qui froncent les sourcils. Ils nous imaginent Monsieur Seignet et moi-même en train de les juger, c'est ça ? Leur chercher la petite bête. Je connais la réputation de certains de nos confrères. Mais nous, chez McGregor, on ne voit pas les choses de cette façon. On considère le management comme un échange de compétences et pas comme une décision imposée. D'ailleurs, je crois que M. Dehaye ne tolérerait pas qu'on agisse en inquisiteur, non ? Notre objectif est de vous aider à améliorer votre performance et de vous donner les moyens de tirer le meilleur de vous-même pour parvenir au progrès permanent, à savoir permettre à chacun de devenir autonome, responsable et impliqué dans l'évolution de l'entreprise. Le progrès permanent ? C'est comme un moteur de Formule 1. C'est loin à concevoir, délicat à régler, mais quand ça marche, c'est le top. Alors évidemment, on ne va pas vous faire passer du jour au lendemain d'une voiture de ville à une F1. Mais on est là pour que chacun d'entre vous puisse un jour la piloter en champion. Parce que cette Formule 1, mais c'est votre entreprise de demain.
Et pour ceux qui trouvent que la Formule 1, c'est dangereux, alors qu'est-ce qu'ils font ?
La F1, c'est une image, Madame Delmas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 15 ans que je travaille au service des entreprises, je n'ai jamais rencontré personne qui ne soit capable d'apprendre et de progresser si on lui en donne la chance. Ou alors c'est de la mauvaise volonté.
Et puis, évidemment, ça ne va pas du tout plaire au patronat de l'époque, qui est intimement persuadé qu'ils sont patrons de droit divin, que en gros le sens du commandement et du leadership ils l'ont de par leur naissance, et que il est particulièrement mal placé de leur donner des cours sur ces deux registres, la stratégie et le commandement, qui par définition ne s'enseignent pas, se transmettent, etc., etc. Donc, si tu veux, le Fayolle va se planter, quoi. Hein. Mais ça, c'est ce que je montre. Mais il va trouver des disciples. Et comme il n'est pas, contrairement au traducteur de Taylor, Henri Le Châtelier, qui lui, polytechnicien, membre de l'Académie des sciences, etc., qui a tout un réseau d'ingénieurs pour diffuser la bonne parole taylorienne. Fayolle, il n'a pas tout ça, il est capitaine d'industrie, et donc il est très catholique, très conservateur, les deux le sont, tous les deux. Mais Fayolle va recruter dans les milieux conservateurs, catholiques, le plaisien. Ouais. Et donc, ce sont des gens qui sont à l'époque, à la fin du 19e, qui ont créé des écoles privées, l'école des Roches, qui sont vraiment dans la formation des élites, qui sont déjà des élites éliminées du système d'enseignement classique parce que non préparées à faire d'énormes efforts. Bon. Et donc, c'est l'enseignement particulariste à l'anglo-saxonne qui est importé en France. C'est des gens qui sont formateurs, des enfants de la très grande bourgeoisie, et qui vont s'emparer en fait du travail de Fayol pour créer, après la Première Guerre mondiale, des écoles privées qui forment les vrais chefs. Hein, on est là dans le culte du chef, dans le culte du leadership. Et alors, ils vont laisser de côté toute la partie stratégie, sciences des affaires, projection à très long terme, mais ils vont garder la partie administration. Et l'administration des affaires devient l'administration de soi.
D'accord.
Et là, on voit bien, alors c'est ce que j'essaie de faire dans le bouquin, la continuité entre ces premières petites officines privées, écoles privées, pour les fils de patrons qui n'ont pas pu suivre les cursus classiques au lycée, et qui se retrouvent dans ces écoles privées. Et ce qui va se développer à ce moment-là, c'est les centres d'efficience mentale. D'accord. Alors ça, c'est un truc qui a été très peu étudié. Et c'est donc c'est des filiales de sociétés américaines qui s'implantent en France dans les années 20 et qui donc sont des centres de rééducation morale ouvertes, alors évidemment, aux membres de la bourgeoisie pour se perfectionner, mais aussi à ce qui commence à se nommer classe moyenne. Et c'est c'est très amusant. Ils font recours à des spécialistes de l'Inde pour le yoga, pour la méditation, pour c'est très très imbibé de pratiques religieuses, l'ascèse, la volonté doit triompher, enfin c'est et là les ingénieurs en organisation vont vraiment investir très fortement ces lieux où s'élabore un savoir managérial qui est, alors ils le disent très bien, c'est plus la contrainte du... C'est pas sous la contrainte, c'est sous la volonté de se transformer soi-même.
Et
on en vient à la technique de soi. Et ça, c'est intéressant parce que effectivement... alors, les relations doivent être mieux travaillées, mais effectivement, ça coïncide assez bien avec le tournant néolibéral.
Ouais, d'accord.
Mais c'est pas aujourd'hui, c'est la fin des années 30.
Ouais. Et du coup, si je résume, parce que néolibéralisme, ça peut être un terme qui est connoté, peut être un peu mal compris. On tend souvent à l'associer aux années 80 avec le passage un peu de l'état social au néolibéralisme, et du coup associer le néolibéralisme à moins d'état. Mais en fait, à la base, le néolibéralisme, c'est plutôt faire intervenir l'État pour modeler l'individu.
Exactement.
Et en faire un produit, un homme économique rationnel.
Voilà, et faire intervenir l'État pour généraliser la concurrence.
Voilà.
À la fois sur les marchés, sur le champ économique, mais aussi sur l'éducation des homo economicus, sur l'éducation économique.
D'accord.
Donc, moi, ce que j'essaie de montrer dans le bouquin, c'est que déjà, avec les Tayloriens, il y a cette volonté de former les ouvriers, les employés à l'économie, et donc au calcul rationnel, et à l'application sur soi-même du calcul rationnel, c'est-à-dire de traiter son corps comme une machine qu'il faut entretenir, etc., traiter son temps comme un capital, qu'il faut faire fructifier, etc. Bon, mais il y a un cran supplémentaire qui est franchi, en tout cas ça devient après 36, parce que le taylorisme se proposait comme facteur de paix sociale. On voit bien en 36 que le taylorisme n'a pas engendré la paix sociale, bien au contraire. Donc toutes ces techniques de contrôle des populations fondées sur l'autorité des petits chefs, des contremaîtres, etc., sont très critiquées à ce moment-là. Les contremaîtres font vraiment l'objet, il y a des très beaux textes de Simone Veil sur qu'est-ce que c'était que les contremaîtres qui sont écrits en 36. Et donc là, on voit bien que l'autorité, elle peut plus être fondée sur une force extérieure, elle doit venir de l'intérieur. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut convaincre à l'idéologie capitaliste et les techniques de d'efficience mentale servent à ça. Alors, ça va très loin, hein, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais les cercles de réflexion intellectuelle qui sont créés par ces ingénieurs engagés donc dans la psychologie, en fait. Hein, il y a un des chapitres que j'ai nommé les liaisons dangereuses, hein, parce que on va vers des formes du génisme, de génisme à la française, mais de rationalisation de la race.
Ouais,
c'est-à-dire avec déjà l'idée que ceux qui sont pas recyclables devraient être rassemblés dans des espèces de sanatoriums. Donc il y a quand même cette idée d'une amélioration de la race, c'est l'amélioration de soi qui contribue à l'amélioration de la race. Et bon, je reprends leurs propos, hein, évidemment il faudrait mettre des guillemets à tout ça, mais il y a évidemment cet idéal, et je pense que ce qui se passe d'un côté en Allemagne, de l'autre en Italie, enfin on voit bien comment ces modèles-là sont les ingénieurs sont assez fascinés par ces espèces de rationalisation absolue, quoi.
Je veux que tu me changes de mission.
Mais c'est pas un self, mon petit Philippe. Je t'ai choisi, c'est pas pour me déjuger en cours de route.
Je veux pas être un coupeur de tête. Tu te rends pas compte, c'est l'enfer de les voir défiler. Tous ceux qui remplissent pas les critères. Une vie pas possible, qui arrive pas à s'adapter. Parce qu'ils le sentent, ils me voient venir.
Mais qu'est-ce que tu crois, on est tous passés par là? Il faut que tu rationalises. Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1. Si tu t'arrêtes sur chaque cas, tu oublies l'ensemble qui est de rendre cette boîte efficace, compétitive.
C'est aussi ce qu'ils disent aussi, voilà, enfin la phrase que moi j'avais trouvée la plus révélatrice, c'est ce n'est le règne de l'intérêt doit remplacer le règne de la contrainte. Donc en fait, c'est l'intérêt, c'est-à-dire l'autocontrainte. Il y a une reproduction. Enfin, moi, c'est ça qui m'a intéressée dans ce travail. C'est finalement, quand on reprend les débats, par exemple, sur l'ordre des ingénieurs conseils, et on voit très bien comment les adversaires de l'ordre disqualifiaient les savoirs scientifiques. C'est au-delà de la question de l'ordre, c'est. Il y a vraiment une humeur anti-scolaire, anti-école de la République chez ces gens-là, conservateurs, catholiques, une ironisation sur le manque de désintéressement des fractions de milieux modestes qui entrent à l'école, sur une stigmatisation des boursiers, du gavage des cerveaux, de culte des diplômes, de l'absence de désintéressement, de vraie culture désintéressée. Ouais. Ben, on retrouve quand même quelque chose d'assez fort qui est un vrai élitisme naturel, quoi. Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut sauver. Hein, et la bagarre sur l'ordre ravive tout ça, parce que évidemment les savoirs estampillés par l'État sont immédiatement considérés comme des savoirs qui deviennent stériles, hein, c'est le fruit qui devient un fruit sec, hein. Dès qu'un savoir est inscrit à l'université, le fruit s'assèche, voilà. Donc là on prend la mesure de ce poids historique, de cette réification quasiment de ces catégories de pensée. Et du coup, si je fais le lien avec ce que j'ai observé dans les années 1990 dans les cabinets de conseil, on se dit oui, il y a une histoire qui traverse tout ça et les gens n'ont pas besoin de la connaître pour qu'elle les habite. Et je pense que de faire l'histoire de tout ça, c'est de retrouver les fondements sociaux de replacer ces catégories, ces schèmes de pensée dans les contextes au sein desquels ils ont pris forme, ils se sont reproduits pour acquérir une consistance.
Ouais. Voilà.
Et donc peut-être la sociologie critique, elle est dans une interrogation sur des choses qui ont aujourd'hui qui sont un peu comme l'air qu'on respire, quoi. L'idée que les savoirs produits dans les écoles de gestion, dans les écoles privées, tout sauf à l'université, en fait, sont beaucoup plus chic et beaucoup plus intéressants. Enfin, voilà. Donc c'est revenir sur les luttes qui ont accompagné tout ça et donc faire de la sociologie politique.
Ouais. Là-dessus, du coup, je te cite, hein, c'était la conclusion du livre que j'avais noté. Tu parles d'une, enfin, tu critiques en fait ce que tu appelles une histoire institutionnelle tronquée qui autorise les formes d'amnésie collective et contribue à faire exister le groupe sur le mode de l'évidence.
Oui.
Et du coup, à renforcer son autorité symbolique. Et à la place, tu veux lui opposer une histoire structurale de la jeunesse du groupe qui a réintroduit les luttes sociales occultées et les replace dans leur contexte. Donc, une manière un peu comme disait Bourdieu, la sociologie défatalise parce qu'elle dénaturalise. Enfin, c'est exactement ça qu'il disait. Mais,
oui, voilà. C'est une dénaturalisation, c'est une déréification.
Voilà, ouais. Ce qui permet du coup de se dire que ça pourrait être autrement.
Ça pourrait être autrement, et c'est oui. Alors évidemment, il faudrait qu'on soit plus nombreux à faire ce genre de travail de sociologie historique, parce que c'est aussi sur qui contrôle l'école. Enfin, l'école, la bourgeoisie catholique entend devenir maîtresse des savoirs scolaires. Enfin, il faut prendre la mesure de ces luttes, de cette guerre scolaire, comme disait Francis-Muel Dreyfus, de la première moitié du XXe siècle. Et voir que des professions comme celle-ci, ce qu'elles doivent la défense des vraies élites, quoi.
Ouais.
Contre l'invasion des barbares.
Bien, merci à tous d'être là pour ce rassemblement important de MacGregor Consulting. Comme j'ai eu le tort de passer par une maîtrise de philo, personne n'est parfait, on m'a demandé de rappeler ici le sens profond de nos valeurs. Le monde entier repose sur la croissance économique. Malheureusement, peu de décideurs ont aujourd'hui une approche pertinente de la croissance. Les vues à court terme, les conservatismes, les lobbies entravent régulièrement une concurrence saine qui permettrait à tous de se développer, de travailler. Nous, à MacGregor, nous voulons libérer le monde de ces contradictions. Nous avons confiance en l'avenir. Et les obstacles ne nous font pas peur. Car la conquête de nouvelles libertés a toujours été l'apanage de quelques-uns, les meilleurs.
Au cours de ton travail, tu as peut-être identifié des formes de résistance possible ou à développer face à ce massif qui est devenu l'idéologie managériale et les politiques qui s'en inspirent, hein, donc développement de l'évaluation, la RGPP, la multiplication des strates hiérarchiques, l'organisation du travail individualisé sur projet avec des primes individuelles, etc. Peut-être qu'au cours de ton travail, du coup, tu as été amené à rencontrer des possibilités de résistance pratique, auquel cas, si tu peux nous mettre dans la combine, ça serait...
C'est des possibilités de résistance pratique, il n'y en a pas des masses. Et puis elles ne sont pas forcément satisfaisantes. Le combat mené à France Télécom par les gens qui ont créé l'Observatoire du stress et de la mobilité forcée est un assez beau combat, puisque finalement ils ont quand même obtenu que la direction soit remplacée, que les trois... le trio infernal soit mis sous la touche. Bon, en même temps, j'avais fait des entretiens avec eux peu de temps après ce remplacement, et finalement, la logique qui consiste à faire toujours plus de profit pour les actionnaires n'a pas été brisée. Ça a juste été un tout petit peu humanisé. Mais... ce qui est énorme, sans doute, pour les gens qui travaillent à France Télécom, mais ça a pas brisé cette logique, bien sûr. Et après, des logiques de compte, enfin, Bon, moi, ce que je pense, parce que ce qui nous arrive à l'université, c'est quand même assez terrifiant aussi quand ouais. on y réfléchit, mais pas seulement à l'université, à la Poste, enfin, à Pôle emploi. Et ce qui est assez consternant aussi, c'est l'absence de lutte, l'absence de mobilisation, espèce de fatalisme face à quand même un fait majeur qui est que les inégalités sociales ne cessent de se creuser en France, que la richesse, les écarts de richesse ne cessent de grandir depuis, depuis les années 90. Et que là, on est quand même très, très soumis, très fataliste, très... Alors peut-être qu'il faudrait réinventer la culture du contournement des ouvriers des usines taylorisées du XXe siècle, la culture de la dérobade, la grève du zèle, arriver à berner le pouvoir financier, parce que c'est ça en même temps qui s'affirme partout, c'est la finance. C'est le pouvoir financier, même à l'université, maintenant, on a des logiques financières et gestionnaires qui prennent le pas sur les logiques, le corps de métier, enfin le cœur du métier, qui serait l'enseignement et la recherche. Mmh. Et je pense que c'est effectivement sur des... c'est effectivement sur des formes de mobilisation là où on est, là où on travaille, et de réflexion sur comment on peut contourner, comment on peut... truquer, tricher, ne pas faire, collectivement, mais bon...
Dans l'attente de la révolution sociale et libertaire qui, de toute façon,
évidemment.
Adviendra quoi qu'il...
Voilà, donc toujours l'écoute de Radio Cani, émission Angle Mort. On vient de s'écouter un entretien réalisé avec la sociologue Odile Henry, qu'on remercie donc pour cet entretien. J'ai dû en couper plusieurs passages et je m'en excuse. Je m'excuse aussi pour les nombreux qui étaient derrière le discours. J'espère que vous n'avez pas bloqué dessus, parce que quand on commence à bloquer dessus, c'est fini, on n'entend plus que ça. C'est très insupportable. Voilà, donc précisons que sur le blog de notre émission, donc faut aller sur le site de Radio Canu et après cliquer sur l'onglet blog des émissions et après aller sur Angle Mort, on indiquera les références de livres, les références d'articles d'Odile Henry, etc. Et puis quelques sources bibliographiques plus généralement. Précisons aussi qu'il y a eu plusieurs extraits de films passés dans le cours de l'entretien, notamment Violence des échanges en milieu tempéré, qui a été réalisé en 2003 par Jean-Marc Moutou, et si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, parce qu'il était vraiment très très bien, et vraiment donc sur ce sujet du conseil, enfin des cabinets de conseil. Et il doit y avoir un extrait aussi, oui, il y a un extrait aussi d'un documentaire intitulé L'Initiation, qui a été réalisé par Boris Carré et François-Xavier Drouet, qui porte en fait sur un stage d'initiation à l'oral aux entrées d'entrée aux écoles de commerce. Voilà. Et c'est un très très bon documentaire aussi, très intéressant. Voilà, donc on s'arrête là. On laisse la place à la causerie.
Voilà, la causerie qu'on remercie pour avoir accepté qu'on déborde un petit peu sur leur créneau. Les camarades arrivent, restez branchés. Et à dimanche prochain, on vous quitte avec L'Homme pressé de Noir Désir.